décision. Alors, premièrement, quand je dis conversion, je ne parle pas de changer de religion, bien que ça, c'est un sens. Ce que je veux dire par conversion dans le sens spirituel de la chose, c'est retournement de 180 degrés. Hein, pour ceux qui connaissent la géométrie, 180 degrés, c'est-à-dire tu retournes de bord parce que tu as découvert quelque chose ou quelqu'un, dans ce cas-ci, c'est Jésus, qui fait que tu changes de direction puis tu le suis, lui. Et on appelle cette transformation spirituelle, et un autre nom dans la Bible, la nouvelle naissance ou la naissance d'en haut. Mais on va quand même utiliser le mot conversion pour parler de la même chose. Puis deuxièmement, il faut qu'on réalise que parmi nous, il y a le processus de la conversion, ça se passe différemment. Puis il faut respecter cela. Il y en a pour qui ça se passe d'une manière, il y en a c'est d'une autre, et particulièrement pour la durée dans le temps. Alors, il y en a pour qui c'est abrupt, et il y en a pour qui c'est progressif. Vous savez, il y a un couple très célèbre, Billy Graham et sa femme Ruth Graham. Billy Graham, c'est peut-être le plus grand prédicateur évangélique du 20e siècle. Il a 98 ans aujourd'hui, mais quand il était dans le feu de son ministère, lui, il prêchait l'Évangile, puis il invitait toujours les personnes à faire une conversion, on peut dire, immédiate à Jésus-Christ. Et les invitait à faire cette prière de repentance, la prière du pécheur par laquelle tu peux te convertir. C'est comme ça qu'il présentait les choses. Ce qui est intéressant, c'est que sa femme Ruth, elle, quand elle parlait publiquement de la foi qu'elle prêchait, elle disait, « Moi, je ne peux pas me rappeler d'un moment où j'ai reçu Jésus-Christ, mais ça a été un processus durant ma jeunesse. Il y a eu différents moments clés. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, je suis maintenant converti, je vis pleinement pour Jésus. J'ai fait mon 180 degrés. » Alors, pour certains, c'est très pointu. Pour d'autres, c'est progressif. Ce qui est important, c'est d'être converti à Jésus et de pouvoir dire, « Maintenant, je suis converti, je le suis à 100% du mieux que je peux. » Amen?
Amen.
D'accord. Voilà. La conversion de l'apôtre Paul qu'on a lu, et merci Myriam de l'avoir bien lu pour nous, c'est un modèle de conversion pour nous les chrétiens. Pas nécessairement dans la forme, hein? On disait que pour la forme pour différentes personnes c'est différent, mais en tout cas pour le contenu. Et cette histoire, pour ceux qui ont lu le livre des Actes, vous avez vu qu'elle est répétée deux fois. Donc, trois fois, elle apparaît dans le livre des Actes. Une fois, c'est le narrateur qui la raconte. L'histoire, ça, c'est ce qu'on a lu tantôt. C'est Luc, l'auteur, qui raconte. Mais à deux autres reprises dans le livre des Actes, c'est Paul qui va donner son témoignage et re-raconter la même histoire. Une fois, c'est devant une foule à Jérusalem, au chapitre 22, puis dans le chapitre 26, c'est devant un roi et une reine, le roi Agrippa et sa femme Bérénice, si je ne me trompe pas. Donc, on voit que pour l'évangéliste Paul, qui a rencontré le Dieu vivant, puis qui veut le faire connaître, eh bien, une des manières qu'il fait ça, c'est qu'il raconte qu'est-ce qui lui était arrivé à lui. Il raconte son histoire. Et donc, c'est aussi une invitation, une idée pour nous aussi, d'apprendre à raconter mon propre témoignage dans la forme que toi, tu veux raconter ça. Tu n'as pas besoin de faire semblant que c'est comme l'apôtre Paul. Tu racontes ce qui t'est arrivé et puis ça peut aider quelqu'un d'autre à voir que Dieu est vivant. Amen. Une autre chose que je voulais mentionner, c'est qu'on voit qu'il y a différentes composantes de la conversion de Paul. Le texte va nous parler de la foi, la repentance, la prière. Il va prier à un moment donné. Il va recevoir le Saint-Esprit. Il va être baptisé dans l'eau. Il va recevoir un appel à la mission. Tout ça, c'est important. Mais aujourd'hui, on ne va pas se concentrer sur ces points-là. On pourrait les étudier à un autre moment. Mais ce qui nous intéresse, c'est le Dieu qui vient à Paul dans cette expérience. Comment est-ce que ce Dieu se révèle et qu'est-ce qu'on peut apprendre, nous? Quand je dis Dieu, on voit dans ce texte que c'est Dieu le Fils, c'est Jésus-Christ qui parle à Paul ici. Puis, il ne faut pas qu'on oublie que notre Dieu, c'est le Dieu trinitaire. Quand le Fils vient à Paul, le Père est dans le Fils, puis le Saint-Esprit est dans le Fils. Amen! Et quand le Saint-Esprit vient vers quelqu'un, le Fils est dans l'Esprit, puis le Père aussi. Ils sont tellement un que c'est juste, c'est le mystère de la Trinité. Alors, quand, autrement dit, on est en train de découvrir Dieu ici par ce que Jésus est en train de dire. Alors, sautons dedans. La première chose que l'on découvre à propos de ce Dieu qui vient à Paul dans sa conversion et qui est venu à toi dans ta conversion puis qui continue à venir à toi, c'est que Dieu aime Paul tel qu'il est. Dieu aime Paul tel qu'il est. Puis tu sais quoi? Dieu, il t'aime tel que tu es. Qui que tu sois, Dieu t'aime tel que tu es. Très important. On voit que Paul est dans une attitude de guerre contre Dieu. Hein? Le premier verset nous dit quoi? Nous dit qu'il respirait quelque chose. Puis ça ne parle pas d'oxygène. Il respire la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Hein, on a vu la semaine passée, si tu t'en prends au peuple de Dieu, Dieu, il prend ça à cœur. C'est contre Dieu que tu t'en prends. Et Paul, il voulait les tuer tellement il était en guerre. Au moment de sa conversion, il était en route pour faire la guerre contre Jésus-Christ. Wow, que l'amour de Dieu est grand. Son pardon et sa miséricorde. Quand on pense vers qui Dieu est en train de venir ici, hein, puis ça nous ramène toujours à la croix. Hein. N'oubliez pas que Paul, le même Paul, a dit plus tard aux Romains, il a écrit: alors que nous étions encore des ennemis de Dieu, encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. C'est merveilleux, non? L'amour, donc autrement dit, l'amour de Dieu, sa miséricorde pour aller te chercher toi, qui fait partie d'une race d'ennemis de Dieu, puisqu'on est tous humains, cet amour-là a été fondé, établi, à la croix. Mais l'amour, il faut juste se souvenir qu'il était là avant. C'est l'amour de Dieu qui, dès avant l'origine des temps, a dit: je sais que les hommes vont devenir mes ennemis, mais moi, dans mon amour, je vais les réconcilier. Donc, c'est l'amour de Dieu avant qui a planifié la croix et qui a organisé la croix pour que par la croix, cette réconciliation devienne possible et devienne établie dans la vérité. Amen? Amen. Donc, l'amour, cet amour vient de Dieu avant de venir dans la croix, mais c'est sûr que pour nous, ça passe toujours par la croix. Quel Dieu merveilleux nous avons! Dieu a aimé Paul en premier. Est-ce que c'est surprenant dans ces circonstances qu'on aime adorer Dieu par des chants de louange, des chants de joie, comme on va faire après cette célébration ou après ce message? Est-ce que c'est surprenant qu'on adore Dieu dans la joie. Est-ce que c'est surprenant? J'espère que ce n'est pas surprenant. Est-ce que c'est surprenant qu'on l'aime en retour? Non? Est-ce que vous aimez Dieu en retour? J'espère que oui. J'aimerais l'entendre plus fort la prochaine fois que je demande, mais le but de ce message, c'est voir ce Dieu qui nous aime à travers ce qui s'est passé avec Paul. Oui, Dieu ne regarde pas ses péchés. Il ne regarde pas son zèle religieux violent. Hein? Ça arrive, et dans notre monde aussi, les gens deviennent tellement zélés pour plaire à Dieu qu'ils commencent à tuer les autres. Est-ce qu'on voit ça dans le monde aujourd'hui? Oui, donnez-moi un exemple. Oui, au Moyen-Orient et ailleurs, il y a des terroristes religieux. Paul n'était pas loin, hein? Il n'était pas loin d'être un terroriste religieux. En tout cas, lui-même se disait qu'il était un meurtrier à cause de ses fausses idées sur Dieu. Mais Dieu ne regardait pas ses péchés. Dieu regardait en Paul un enfant adoptif potentiel, comme il te voit toi aussi. Et puis, ce qui émerveillait aussi dans son amour, et on l'a bien entendu de la manière que Myriam a lu, Jésus vient à lui d'une manière convaincante et puissante. Quand Paul répond la première fois à ce qu'il entend, à ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il dit, Paul? C'est quoi sa réplique à Paul au verset 5? Je ne sais pas si quelqu'un a son texte devant lui. Est-ce que sa réplique, c'est « Qu'est-ce qui se passe ici? » Est-ce que c'est ça qu'il dit? « Qu'est-ce qui se passe ici? » « Qui es-tu, Seigneur? » Alors, ce deuxième mot est intéressant, ou ce dernier mot, c'est pas juste « Qui es-tu? » mais « Qui es-tu, Seigneur? » C'est quand même bizarre. Il ne sait pas qui lui parle, mais il l'appelle « Seigneur ». Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il l'appelle Seigneur s'il ne sait pas qui lui parle? Oui? Il a vu la gloire du Seigneur. Exact. Autrement dit, Paul ne sait pas c'est qui, mais il se rend compte qu'au moins cette force ou cette personne qui lui parle va devenir son Seigneur. Voyez-vous un peu, quand Dieu vient à un pécheur, il vient avec force. Et Paul commence déjà à l'appeler Seigneur, tellement la rencontre est percutante. L'autre chose que je voulais dire, c'est que c'est Dieu qui prend l'initiative de la réconciliation. Et puis ça, je pense que c'est très important, ce mot « réconciliation », parce que Paul, on va voir après, quand il écrit des épîtres, il va parler de la réconciliation avec Dieu puis des êtres humains entre eux. C'est celui qui parle le plus de la réconciliation dans la Bible. Et ici, il fait l'expérience que le Dieu de Jésus-Christ, c'est le Dieu de la réconciliation. Et hein, c'est ça, Paul est ennemi, Dieu vient le réconcilier à lui. Hein? Réconciliation, c'est deux personnes en guerre qui arrivent pour être des amis après ça. On se comprend. C'est ça, la réconciliation. C'est ce que Paul a vraiment vécu ici. Et puis, ce qui est important de comprendre, parce que nous avons tous un bagage païen à l'intérieur de nous, qu'on soit africain ou québécois ou français ou canadien-anglais, nos ancêtres, en quelque part, ou amérindiens, nos ancêtres, en quelque part, avaient des conceptions de religion humaine. Puis ça, ce qui est assez commun, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est que la réconciliation avec les dieux dans les anciennes religions, c'est l'homme qui est l'auteur de ça. Ça veut dire que la divinité, elle est fâchée avec moi, ou bien j'ai peur d'elle, je vais faire des actions, des sacrifices pour la réconcilier, la divinité, pour qu'elle soit comme apaisée. OK, tu as pris un poulet, tu as fait une belle action, tu l'as sacrifié et la divinité a dit, OK, maintenant je me sens mieux. Puis à ce moment-là, moi, je sens que la divinité est réconciliée. Est-ce que tout le monde me suit? OK. Avec le Dieu de Jésus-Christ, le vrai Dieu, le seul Dieu, en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. La réconciliation vient de lui. C'est nous autres qui sont en guerre. Lui a été blessé, mais c'est lui qui décide, je vais réconcilier les hommes à moi. C'est lui qui fait tout pour réconcilier. Pensez-y une minute. C'est ce que Paul est en train de découvrir ici. C'est ça qui donne toute la direction à l'évangile qu'il va prêcher. J'ai rencontré récemment un ami chrétien qui me parlait de son mariage. Et il m'a dit quelque chose. Il dit, moi là, Marc, tu sais, mon mariage, il va super bien depuis que j'ai appris à aller chercher ma femme. Et moi, je suis toujours intéressé à en savoir plus sur comment améliorer mon mariage, mais je ne comprenais pas exactement ce qu'il voulait dire. J'ai dit, peux-tu m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire aller chercher ma femme? Et il dit, quand on est en chicane, moi puis ma belle, soit parce qu'elle est fâchée contre moi, ou qu'on est fâché l'un contre l'autre, ou qu'on est déçu, ou quoi que ce soit, il dit, j'ai réalisé que des fois, ma femme, elle a de la misère à initier la réconciliation. Fait que moi, ce que je fais, je rentre en moi-même, je réfléchis, je prie, et puis je décide d'aller vers elle. Et puis, je me dis, je vais la pardonner d'avance, puis je vais aller la chercher. Puis, je vais y aller avec détermination, avec force. Mais je ne la forcerai pas, par contre. Je vais y aller dans une douceur. OK. C'est ça que je veux dire, Marc, par « aller chercher ma femme ». Alors, évidemment, ça peut s'appliquer. Une femme peut aller chercher son homme aussi. Mais moi, je veux ramener ça à Dieu ici. Dieu, il va chercher Paul, n'est-ce pas? Il a décidé de le réconcilier. Il vient lui parler d'une manière que Paul va comprendre. Amen. Une manière que Paul, ça va toucher son cœur. Les calvinistes, c'est un genre de théologie ils sont nombreux au Québec, mais il y en a dans l'Alliance et dans l'Oasis, mais c'est comme, parfois ils font des débats avec les non-calvinistes. Mais bon, eux, ils disent que l'appel de Dieu est irrésistible. Hein? C'est une manière de dire la même chose. C'est-à-dire que quand Dieu il vient te chercher, il s'arrange pour que tu puisses comprendre. C'est un peu comme les mamans, quand vous appelez vos enfants pour souper, est-ce que vous aimez ça qu'ils vous entendent? Oui, parce que sinon, ça va refroidir. Donc, et les papas aussi. Alors, chez nous, en tout cas, Cheryl, elle a trouvé le moyen d'avoir un appel irrésistible au souper. C'est comme, les enfants, le souper est prêt. Hein? Appel irrésistible. Là, ils comprennent. Puis ils viennent. Mais tout ça, c'est l'amour de Dieu. Et puis, Paul est saisi par l'amour de Dieu. Et ça, c'est important pour son appel, parce que Dieu lui donne une job après. Et cette job, elle va être difficile. Hein? On a vu au verset 16, il dit, « Moi, je vais lui dire à Paul combien il va souffrir pour la cause de mon nom. » Il faut que Paul soit enraciné dans l'amour de Dieu. Il faut qu'il soit convaincu que Dieu l'aime. Hein? Et il est convaincu. Puis je pense que son expérience sur la route de Damas, ça l'a marqué à vie. « Wow, Dieu, tu m'as donc aimé. Tu m'as donc aimé. Tu m'aimes donc. Et je vais persévérer, même si je me retrouve en prison, même si je me retrouve abandonné par les chrétiens que moi-même j'ai amenés à Christ, et ainsi de suite. » Paul a beaucoup souffert. Puis toi aussi, ma sœur, toi aussi, mon frère, toi aussi, mon jeune qui a donné sa vie à Christ, tu vas passer par des moments en vie chrétienne qui seront souffrantes. Puis Dieu veut que tu sois persuadé puis confiant dans l'amour de Dieu pour que quand ces moments-là arrivent, tu ne lâches pas. Tu ne lâches pas puis tu persévères. Hein? Quand je ne suis pas convaincu de l'amour de Dieu, je me dis quoi quand j'ai un mauvais coup? Puis il y en a des mauvais coups qui nous prennent par surprise. Mon mariage devient difficile. Ou un de mes enfants se rebelle contre Dieu. Ou telle personne proche de moi devient très malade. Ou moi, je deviens très malade. Ou mon ministère d'église prend une mauvaise direction. Il y en a des choses décevantes. Alors, tu vas te dire, si t'es pas convaincu que Dieu t'aime, il y a un risque que tu te dises, ben c'est parce que Dieu me punit, puis je ne suis pas dans la bonne voie, puis je dois abandonner. Oh, mon frère, ma sœur, Dieu t'aime tel que tu es. Amen. Et j'aimerais que ce texte, que tu le médites pour toi, puis que tu te dises, si Dieu est allé chercher Paul d'une manière aussi forte, dans un amour aussi inconditionnel, c'est à cause de la croix. Puis cette croix-là, elle n'est pas juste pour Paul, elle est pour toi, elle est pour tout être humain. Cette croix te dit, Dieu t'a aimé avant, il t'aime maintenant, il t'aimera toujours. Et enracine-toi dans cette assurance que Dieu t'aime et que tu ne peux rien faire pour changer ça. Maintenant, Dieu veut changer la vie de Paul. Dieu l'aime tel qu'il est, mais il veut changer la vie de Paul. Ça paraît contradictoire, mais l'idée, c'est que l'amour, si tu aimes vraiment quelqu'un, tu l'acceptes tel qu'il est. Et puis, cet amour-là permet à la personne de se changer elle-même ou d'entrer dans un processus de changement parce que tu l'aimes, puis cette personne veut s'approcher de toi. C'est dans ce sens-là que Paul va se convertir, il va se mettre à suivre Jésus et entrer dans un processus de transformation. Paul va devenir une toute autre personne, mais dès le départ, il s'est senti accepté tel qu'il est par Dieu. Donc, Dieu ne dit pas à Paul, je redis un peu la même chose, change, fais des sacrifices, transforme ton comportement, fais beaucoup de belles œuvres, puis après, je vais t'accepter. Non, Paul est accepté tel qu'il est. Paul se repent dans le sens, Seigneur, je vais maintenant vivre pour toi, puis il rentre dans un processus de transformation. Et toi aussi, n'essaye pas de te changer toi-même. Accepte l'amour de Dieu pour toi. Adore-le. Invite-le à devenir ton maître. Et puis, il va te faire entrer dans une nouvelle direction de vie. Mon troisième et dernier point. Dieu ne fait pas juste sauver Paul, mais lui révèle son plan mondial. C'est plus que mondial même, c'est pour l'univers tout entier. Dieu a un plan pour réconcilier à lui-même tout l'univers, tout le monde et tous les individus de la terre, ou tout au moins toutes les ethnies de la terre. Et l'invitation est pour chaque être humain. Dès le départ, Dieu lui fait connaître à Paul son plan de réconciliation, mais ce n'est pas juste pour lui. Dieu a un plan, puis Paul a un rôle. OK? Dieu lui dit, dès sa conversion, j'ai une mission pour toi, une grande mission. Une grande mission puis une petite mission en même temps. Puis c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Pour Paul, sa mission est grande dans ce sens qu'il va lui dire, « Je t'ai choisi, enfin, par l'entremise d'Ananias. » Ananias, ce n'est pas le même que la semaine passée. Il y a un autre Ananias qui est chrétien, qui habite à Damas. On ne parle pas de l'Ananias de Jérusalem. Et Dieu dit à Ananias, « Va le voir, Paul, et dis-lui que moi, Dieu, je l'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, ça c'est quasiment toute la planète, aux rois, c'est-à-dire les chefs des peuples, et aux Israélites, tous les juifs. » Alors, il a un énorme rôle. Puis en même temps, c'est un petit rôle, dans le sens, comme chacun de nous, notre rôle est grand parce que le plan de Dieu, il est grandiose. Et c'est tout un privilège de pouvoir participer comme coéquipier avec Dieu, n'est-ce pas? Puis Paul, il va avoir un rôle particulièrement important. Mais c'est un petit rôle. Pourquoi? Parce que le joueur numéro un de l'équipe, c'est l'Esprit-Saint lui-même. C'est l'Esprit-Saint qui cause les conversions. Ce n'est pas nous. Donc, nous, on a tous un petit rôle. Et d'autre part, les uns par rapport aux autres. Ça, c'est important de réaliser que mon rôle, dans un sens, il n'est jamais plus grand que celui de Nicolas ou d'Armel ou de que sais-je, Josiane ou, voyons, vas-y, Andy, c'est ça? Hélène, oui. Ah, il faut qu'on travaille ensemble, excusez-moi. Je pourrais nommer tout le monde. On travaille ensemble, hein? Puis il faut travailler en équipe. Et vous savez, la réaction d'Ananias est quand même comique parce que Dieu est en train d'orchestrer la conversion de Paul. Hein? Avez-vous remarqué qu'il se révèle à Paul sur le chemin de Damas. Mais là, il va parler à Ananias, qui est pas dans la même maison. Et puis, il lui dit, va voir Paul. Quand même intéressant. Puis Ananias, il avait entendu parler de Paul. Puis qu'est-ce qu'il dit à Dieu? C'est quoi la réaction d'Ananias? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se souvient. Oui, cet homme-là veut faire mourir les chrétiens. Donc, sous-entendu, Dieu, est-ce qu'il n'est pas en train de dire, « Dieu, écoute, c'est peut-être pas une très bonne idée. » Hein? C'est Dieu qui recrute dans son équipe, n'est-ce pas? Et donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que, je donne un exemple facile. On a entendu les beaux témoignages de Philippe et Régina tantôt, on pourrait se dire, bien, en fait, ce n'est pas le genre de coéquipier qu'on veut ici, nous. Dieu, est-ce que tu ne pourrais pas les envoyer dans une autre église? Non, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut se soumettre à Dieu. C'est Dieu qui recrute. En fait, on ne se dit pas ça du tout. On est vraiment heureux de vous avoir. Mais c'est le principe. C'est le principe qu'il faut travailler ensemble parce que c'est Dieu qui appelle les coéquipiers. Amen? Amen. Moi, je voulais ajouter que... Oui, c'est Dieu qui recrute. Et puis, par rapport à moi-même, juste quelques petites remarques. Premièrement, Dieu veut te donner un rôle en fonction de tes dons et de tes capacités. Et donc, et c'est ça qui est merveilleux. Donc, prie Dieu si tu sens que ton rôle n'est pas clair pour toi. Prie Dieu parce qu'il a hâte de te le donner. Parle à tes amis. Tu peux venir même me voir en tant que pasteur. Je peux peut-être te donner de bonnes idées. Il veut que tu découvres ton rôle comme chrétien dans son Église et dans la mission mondiale. Ton rôle aussi peut changer dépendamment de la saison de ta vie. Alors, oui, bon, un exemple qui me vient à l'esprit. Michel Houle, qui a été pendant 14 ans le pasteur principal de cette église. Eh bien, il est dans une nouvelle saison de sa vie. Dieu est en train de lui révéler un genre de nouveau rôle qui tienne en compte de ses dons, de ses expériences et tout, et aussi de la nouvelle saison de sa vie. Et puis, c'est merveilleux. On peut avoir des changements de rôle. Puis c'est correct aussi, c'est Dieu qui est le chef d'orchestre. Puis c'est le Saint-Esprit qui va au-devant de nous. Et tout ça, c'est pour amener le message de réconciliation, le message d'amour de Dieu à ceux qui nous entourent. Amen. Bon, je crois qu'il faut conclure. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a lu cette merveilleuse histoire de la conversion de Paul, qui est un modèle pour chacun de nous, et qui aussi nous fait connaître qui est ce Dieu qui, à la base, c'est la source de l'amour, au point de se réconcilier ceux qui se sont rebellés contre lui. Et Paul a été aimé alors qu'il était ennemi. Il a été aimé d'une manière qu'il a compris, qu'il l'a fait retourner de bord. Il a été aimé pour être maintenant sur une route de transformation de sa personne. Il a été aimé pour entrer dans son rôle, dans le plan de Dieu. Alors nous, remercions Dieu ce matin. Moi, je voudrais qu'on lise ce texte ici qui nous rappelle comment on doit être enraciné dans l'amour de Dieu pour moi. Hein? Et c'est encore une fois Paul qui a écrit ceci. Écoutez attentivement. Il dit, « J'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Amen. Tu es aimé de Dieu. Dieu t'aime. Et c'est ce qu'on va célébrer maintenant. J'inviterai l'équipe de louange. Puis si vous voulez insérer dans la louange un moment pour que les personnes puissent élever une prière, moi, je trouverais ça cool, mais je vous laisse décider de cela.